Il faut distinguer entre les territoires qui semblent lésés aujourd'hui et ceux qui seront lésés demain.
Et demain, les territoires, CIC banque privée du dirigeant d'entreprise, explore les grands enjeux d'avenir au prisme des territoires, en partenariat avec Uzbek Erika. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Et demain les territoires ». Aujourd'hui, nous allons parler mobilité des populations et attractivité des territoires. Alors que les conditions d'habitabilité des villes se dégradent et que la société traverse des crises multiples, de nouvelles dynamiques territoriales semblent influer sur le développement économique du pays. Pendant la crise du Covid, on nous a même promis un vaste exode urbain. Alors, les grosses villes se sont-elles réellement vidées au profit d'environnements plus ruraux ? Nous avons posé cette première question à Boris Chabanel, consultant senior en économie locale au sein du cabinet Utopie.
Les études qui se sont penchées sur le sujet ces dernières années, ces derniers mois, sont assez convergentes sur le fait que le terme exode urbain est peut-être un petit peu fort par rapport à ce qu'on observe. Il n'y a pas de bouleversement ou de flux très très massifs qui videraient les villes vers le reste du territoire. C'est peut-être un petit peu plus subtil. Ce qui me paraît assez remarquable quand même, c'est la perte de vitesse du centre des métropoles, en fait, qui sont finalement celles qui vont le plus voir leur dynamique se ralentir. Et quand on voit même le solde entre les départs et les arrivées, c'est les territoires qui, a priori, sont aujourd'hui peut-être les moins attractifs. Ça, c'est pas un phénomène nouveau. Et on peut aussi s'interroger à l'avenir sur l'évolution de ce phénomène de perte d'attractivité des grands centres des métropoles. Il y a vraiment l'aspect démographie, mais l'aspect emploi est quand même vraiment tout aussi intéressant. De voir que finalement, à l'échelle nationale, là où les métropoles ont vraiment concentré la dynamique de création d'emplois, ont vraiment été Alors, elles continuent de concentrer le stock d'emplois le plus important, évidemment, mais en termes de dynamique d'emploi, de là où se créent les emplois, on voit qu'il y a une vraie redistribution des cartes. 42% des créations nettes d'emplois, on va dire sur la période entre fin 2019 et début 2022, ont lieu dans des départements qui sont des départements qui n'intègrent pas sur leur territoire des métropoles. Donc ça dit quelque chose parce que avant cette période-là, c'était 15%. Donc en fait, il y a ce phénomène de redistribution des emplois qui est assez intéressant.
Une redistribution démographique et même économique entre grosses et petites villes, une mauvaise nouvelle pour les grandes métropoles, pas forcément.
En fait, les territoires gagnants ne sont pas forcément ceux qui sont moins attractifs aussi. C'est-à-dire quand on parlait des métropoles, peut-être que des métropoles qui étaient un peu en surchauffe ces dernières années, avec aussi des tensions très fortes sur l'immobilier, etc. Finalement, se retrouver un peu moins sous la pression peut aussi jouer favorablement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ben voilà, la pression se détend un petit peu sur les grands centres métropolitains. C'est pas non plus à interpréter comme quelque chose d'absolument négatif. Et ça peut venir converger en fait avec certains projets politiques. Si on pense notamment à la métropole de Lyon, il y a aussi cette volonté de peut-être mieux répartir le développement aussi avec les territoires voisins.
La répartition du développement économique semble donc aujourd'hui évoluer entre les différents territoires. Et il y a aussi l'explosion du télétravail qui permet désormais à un grand nombre d'actifs de vivre dans des territoires plus isolés tout en restant connectés à leurs emplois. Pourtant, cette tendance connaît déjà aujourd'hui quelques limites. C'est ce que nous explique Vincent Gaulin, directeur du département économique de l'Institut Paris Région et spécialiste de l'attractivité des villes.
Il y a quand même aujourd'hui un phénomène qu'il faut re-rentrer dans l'équation, c'est l'évolution du prix de l'énergie. Le prix de l'énergie a un impact direct sur les mobilités, que ce soit sur votre mobilité en voiture, votre mobilité en transport en commun, ou si vous prenez le train, c'est que finalement ça devient un peu plus cher. L'augmentation du prix de l'énergie agit aussi sur votre coût du logement. Donc c'est un effet qui peut avoir un effet presque contradictoire à ce qu'on a vécu, finalement dans l'idéation post-Covid, à savoir finalement je peux aller partout et puis par les réseaux de transport qui sont individuels ou par un mode de transport individuel ou par un mode de transport collectif, aller travailler là où j'ai envie d'aller travailler. Bah, finalement on se rend compte que la mobilité et le logement a un coût et que le coût va être un petit peu croissant. Donc ça tempère un petit peu certains comportements de mobilité. C'est-à-dire que certaines personnes qui voulaient aller loin, finalement, vont aller un peu moins loin. Donc en fait, il y a une espèce d'équilibre qui est en train de se trouver entre un désir d'avoir plus d'espace, de vivre un peu un rééquilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, et puis des contraintes non négligeables, qui sont des contraintes quelquefois techniques, de capacité de transport, de saturation de certains réseaux, mais aussi de contraintes financières qui font que bah, finalement, ça limite quand même les opportunités de choix. Et vous voyez un petit peu, finalement, cette recherche d'équilibre entre les deux et qui amène, dans certaines enquêtes, finalement, vous voyez des Français à prendre plus de temps, finalement, pour trouver le lieu qui correspond à cet équilibre, en tout cas ce nouvel équilibre qu'ils recherchent.
D'un côté, des Français qui mettent de plus en plus de temps à trouver leur équilibre de vie, dans des villes ni trop denses, ni trop éloignées des centres économiques. Face à eux, Des territoires qui doivent parfois se réinventer pour éviter de trop perdre en attractivité et de devenir les grands perdants des nouvelles migrations internes. On écoute Sonia Lavadino, chercheuse et consultante, spécialiste de la prospective des villes, qui accompagne les territoires dans leur transformation.
Dans ce monde actuel, pas tout le monde sera gagnant, et dans le monde qui vient. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément ceux auxquels on pense. Je pense notamment que les métropoles seront très lésées dans le monde qui vient, parce qu'elles n'ont pas la résilience nécessaire, elles n'ont pas la capacité à pouvoir forcément toujours s'en sortir, vu ce qu'elles consomment en énergie, en eau, en entrant de façon globale. Et vu leur métabolisme, je pense que ce sera plus difficile pour elles, en fait, de s'en sortir bien dans le monde qui vient. Donc, je dirais qu'il faut distinguer entre les territoires qui sont lésés aujourd'hui et ceux qui seront lésés demain, et des territoires qui sont aujourd'hui très attractifs. Je pense par exemple au littoral, ou je pense au sud de la France. On voit bien que pour des raisons vraiment liées à des extrêmes climatiques, ce sera plus compliqué pour ces territoires. Il faut aussi voir qu'il y a des dynamiques démographiques qui vont changer complètement la donne. Je pense notamment à la disparition progressive des baby-boomers à l'horizon 2033-2037. Donc là, on a en gros une phase dans laquelle les baby-boomers qui partent aujourd'hui à la retraite et qui, par exemple, gonflent beaucoup la « silver economy », vont à un moment donné disparaître, seront remplacés par les nouvelles générations, et c'est pas du tout dit que les nouvelles générations fassent les choix qui ressemblent aux choix de leurs aînés. Et donc, du coup, on peut voir tout d'un coup des villes qui aujourd'hui s'appuient beaucoup sur la silver economy vraiment crasher. Et donc là-dessus, ce qui me préoccupe, c'est plutôt le fait que ces mouvements ne sont pas anticipés. Les mouvements migratoires dont je parle liés au climat sont pas très anticipés, ni par les territoires d'où les gens partent, ni par les territoires qui vont les recevoir. Donc je pense qu'en fait, on n'est pas prêts, ni les uns ni les autres. On n'est pas prêts à perdre, mais on n'est pas non plus prêts à recevoir. On ne sait pas trop quoi en faire de ces nouveaux habitants, alors qu'en fait, c'est vraiment une opportunité.
Des territoires qui ne sont pas ou peu préparés à accueillir des nouvelles populations, et plusieurs d'entre eux connaissent déjà un certain nombre de difficultés. C'est ce que nous explique Vincent Gaulin.
Vous avez des territoires qui ont vu arriver des populations, notamment par exemple les territoires périurbains. Le prime abord, on se dit, c'est top, finalement, ça va me permettre de stabiliser mes services publics, voire de redévelopper certains commerces, etc. etc. Donc il est certain que ça permet d'apaiser certains territoires, de lutter contre une certaine forme de désertification, sauf que ça a un coût. Et c'est ce qu'on est en train de s'apercevoir, c'est que finalement, ce sont des urbains, et des urbains, souvent des familles, etc., donc des besoins de services publics, et derrière des coûts en termes de services publics. Donc, il y a des territoires aujourd'hui qui disent, oulala, il faut que je sois un peu moins attractif par rapport à ces populations parce que ça me coûte trop cher en termes de finances publiques, quoi. Finalement, le gain est intéressant, mais peut-être pas tant que ça. Donc, voilà, il y a une forme aussi là d'équilibre. Mais ce qui est certain, c'est que cette répartition un petit peu différente a un effet multiplicateur sur l'économie locale en termes de, finalement, de capacité de dépense. Mais c'est pas automatique. Je travaille sur certains territoires et on se rend compte qu'il y a des télétravailleurs, par exemple, donc des personnes qui travaillent dans un autre territoire, qui du coup sont plus présents dans leur lieu de résidence. Et on s'était dit au début, finalement, elles vont consommer plus localement. Pas tant que ça, parce que finalement, elles ont pris leurs habitudes de consommation ailleurs et elles gardent leurs habitudes de consommation. Donc, l'impact, l'effet multiplicateur dans l'économie très locale est quelquefois limité. Ça, aujourd'hui, impose aux collectivités ou aux agences d'attractivité ou leurs outils, on va dire, à quelquefois aller au contact de ces personnes qui sont arrivées pour finalement faire en sorte qu'elles bénéficient encore plus au territoire de manière direct par leurs dépenses, mais aussi quelquefois, ce sont potentiellement des entrepreneurs, ce sont des gens qui peuvent créer de l'activité, donc aussi les amener quelquefois à créer sur place des activités qu'elles exercent ou qu'elles pourraient créer ailleurs.
Repenser son tissu économique pour mieux intégrer les nouveaux arrivants et entendre aussi et surtout l'envie des habitants de continuer à évoluer vers de nouvelles formes de vivre ensemble. On écoute Sonia Lavadino.
Je pense quand même qu'au niveau des signes faibles, on voit un certain nombre de choix de vie différents. Et c'est, moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. C'est pas forcément que ce soit très quantifiable à ce stade, mais c'est plutôt que philosophiquement, dans les valeurs qui nous guident ou qui nous portent, on voit qu'il y a vraiment des valeurs qui sont liées à mieux se connecter à la terre, mieux se connecter à des circuits locaux, être plus inscrit dans des dynamiques de proximité. Ces valeurs-là sont des valeurs qui peuvent être plus incarnées par des territoires, on va dire, à échelle plus humaine. Je vais le dire un peu comme ça, de façon large, parce que je pense que c'est aussi trop clivant de dire urbain, rural. Il y a beaucoup de formes d'urbanité qui peuvent se rapprocher des valeurs de la ruralité et vice-versa. Je crois qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus hybride que ce qu'on a été précédemment. Une chose est certaine, pour ma part, je crois beaucoup aux villes petites et moyennes, au sens que je le vois dans d'autres pays que la France, à quel point ces villes-là ont le vent en poupe, parce qu'il faut dire qu'en France, il y a la métropolisation est un phénomène qui a été très fort ces dernières décennies. Et je pense que d'autres pays, y compris des pays comme l'Allemagne ou les Pays-Bas ou les pays nordiques, de façon générale, sont des pays qui sont plutôt dans des logiques de réseaux de villes, avec des villes petites, moyennes, grandes. Et je pense personnellement que ça, c'est la meilleure façon aussi de faire face aux défis énergétiques, aux défis d'approvisionnement, aux défis d'eau, manque d'eau ou utilisation de l'eau. Que nous avons là en face de nous, et aussi répondre mieux à des aspirations de reconnecter avec des gens qui sont plus proches de nous, d'avoir plus de temps pour soi, d'avoir plus de temps pour nos enfants. Là-dessus, je pense qu'une vie non pendulaire, je vais le dire comme ça, serait de mon point de vue plus intéressant. Je pense qu'on ne peut pas voir ça comme un phénomène post-Covid, je pense qu'on doit voir ça comme le Covid, comme un accélérateur d'une tendance plus longue au réquestionnement des temps de travail, et de la place que le travail prend dans nos vies. Je pense que là-dessus, c'est vraiment très différent d'avant.
C'est la fin de cet épisode. Merci à Boris Chabanel, Vincent Gaulin et Sonia Lavadino d'avoir partagé avec nous leurs idées et leurs réflexions. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Et demain les territoires avec CIC Banque Privée et Uzbek Erika.